Bonjour Mgr Brouvet.
Bonjour Anne-Rose.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce quatrième rendez-vous hebdomadaire. On a envie de vous demander cette semaine, comment allez-vous ?
Eh bien moi je vais bien, merci.
Ce confinement se passe bien pour vous ?
Ce n'est pas les activités qui manquent, même si la plupart se font à mon bureau évidemment. Mais voilà, l'évêque il doit continuer à animer hein, les services, le diocèse, encourager, à coordonner. Voilà, je vais bien et puis je poursuis ma route.
Alors, Mgr Brouvet, cette semaine, évidemment, on va continuer à parler de l'actualité. Et l'actualité est encore liée, bien sûr, à cet état de confinement. Alors, je voudrais qu'on aborde un point en particulier pour commencer. C'est cette histoire d'Eucharistie, d'accès, de la possibilité d'accéder, de vivre la messe. Nous avons d'un côté, depuis quelques jours, des personnes catholiques qui se rassemblent, qui manifestent devant les cathédrales, devant les églises, pour réclamer la messe, pour dire leur besoin de l'Eucharistie. Et puis, nous avons d'un autre côté, des personnes catholiques également, qui, elles, ne s'associent pas à ces manifestations, tout simplement parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans cette démarche. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression d'assister là à un débat entre catholiques au sujet même de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est censé pourtant nous rappeler qu'on fait partie du même corps, censé nous rappeler notre communion, notre unité. Qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, ce confinement, personne ne l'avait prévu, personne ne l'avait préparé, comme le premier confinement d'ailleurs. Et donc, je pense que chacun fait un peu ce qu'il peut. Hein, quelque chose qui n'est pas organisé. Voilà, au fond, il peut y avoir beaucoup de peur d'attraper le Covid. Il y en a qui n'ont pas peur du Covid. Il y en a qui l'ont déjà eu. Et puis alors ensuite, du coup, ça se transplante, disons, cette problématique qu'a chacun, hein, avec celui qui ne veut pas sortir, celui qui veut sortir, celui qui a très peur, celui qui n'a pas peur. Forcément, ça se transpose hein, sur la question de la messe. Et voilà, il y en a qui ne veulent pas mettre de masque. Il y a ceux qui vont à la messe et puis qui portent un masque, qui se mettent un peu au fond. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout aller à la messe.
Vous comprenez ces réactions ?
Oui, moi je comprends très bien qu'en fait, chacun fait un peu ce qu'il peut. Hein. On a aussi parfois reproché aux prêtres d'avoir célébré la messe devant des écrans. Parce qu'il y a ça aussi, c'est comment est-ce qu'on fait le dimanche ? Est-ce qu'on se met devant un écran ? Est-ce qu'on fait une liturgie familiale ? Est-ce qu'on va juste communier à l'église disons tout seul, parce que c'est possible.
Il n'y a pas de bonne solution. Enfin, la meilleure solution, c'est celle qui correspond le mieux à chacun.
Oui,
c'est
je crois que chacun vit ses événements un peu là, comme il le sent, comme il le peut. Je trouve qu'on a fait. Enfin, il y en a qui se mettent à théologiser, c'est-à-dire il faut rationaliser, il faut expliquer. Il y en a qui commencent maintenant à dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Moi, j'ai l'impression que dans les circonstances exceptionnelles, tout le monde trouve sa solution personnelle. Et puis, ça dépend de la famille. Et puis, oui, si on a une famille avec tous les enfants qui sont pratiquants, ce n'est pas la même chose que si on est tout seul dans sa famille à croire en Dieu ou en tout cas à pratiquer le dimanche. Bon. Et puis, ça dépend de l'âge des personnes. Bon. Je pense qu'il faut se souvenir Alors, parce qu'il y en a qui ont peur aussi que les gens ne retournent plus du tout à la messe, que les gens finissent par s'habituer à regarder la messe à la télévision.
Vous n'avez pas cette crainte ?
C'est-à-dire, non, moi je ne suis pas dans la crainte. Je me dis qu'une fois que l'épidémie sera terminée, chacun retrouvera, j'espère, le chemin de l'église. S'il y en a qui trouvent que c'est plus confortable devant la télévision, moi je trouve que ça dépend, parce que la messe télévisée, on l'a depuis très longtemps. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pour les personnes fragiles, quand il fait trop froid, pour certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont trop loin de leur église. Bon, maintenant, il n'y a plus d'église dans tous les villages. Donc, tout ça, ça fait... Bon, moi, je crois qu'on a toujours, si vous voulez, été en tension, dans la vie chrétienne, entre retrouver la communauté le dimanche pour communier, et puis ensuite retourner chez soi et vivre sa foi dans sa vie quotidienne, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Il faut qu'il y ait toujours cette tension. On a besoin d'aller à la source, mais Ça n'est pas pour rester à l'Église. Hein. Quand on dit aller dans la paix du Christ, ça veut dire, à la fin de la messe, ça veut dire maintenant aller vivre votre vie chrétienne chez vous, là où vous êtes, là où le Seigneur vous a mis. Et pourtant, on a besoin aussi de faire cette démarche, de se rassembler.
Oui, la question n'est pas que l'Eucharistie, la question est aussi de retrouver la communauté paroissiale.
Exactement, c'est-à-dire que moi je vois que beaucoup de gens disent c'est ça qui nous manque.
Oui.
Hein, notre foi, elle n'est pas vécue chez soi, de manière privée, mais oui, il y a cette joie de retrouver les autres pratiquants, avec qui parfois on ne partage même pas d'amitié, ou on n'a pas d'idées communes, où on est quand même très éloigné dans la vie courante. Mais là, on se retrouve autour du Christ. Et j'ai toujours été impressionné par l'unité qui est faite le dimanche dans l'église paroissiale ou à la cathédrale, de gens qui sont très, très différents, qui se retrouvent là parce qu'ils sont disciples du Christ. Alors, face à cette épidémie, à l'impossibilité d'avoir la messe en public, chacun se détermine. Mais je crois que tous ceux qui tiennent à la messe, retourneront. Alors moi, je comprends les gens qui restent chez eux. Je comprends les gens qui disent il faut qu'on fasse tous un effort, parce qu'au fond, ce qui est interdit, ça n'est pas la messe en elle-même, c'est les rassemblements. Bon, il se trouve qu'une messe, ça se fait dans un rassemblement. Mais je trouve que beaucoup de gens comprennent que un rassemblement, c'est vecteur aussi de
la circulation du virus.
De la circulation du virus. Bon, ensuite, les gens qui ont manifesté devant les églises, je trouve ça beau aussi qu'ils se positionnent. Nous, c'est notre manière un peu française. On descend dans la rue dès qu'on n'arrive pas à se faire entendre.
C'est courageux aussi.
Ben oui, il y a un certain courage, parce que les gens disent, attendez, moi, je me montre comme pratiquant, non plus à l'intérieur de l'église, mais à l'extérieur. Et puis, c'est notre manière de dire à nos gouvernants, attendez, l'acte de foi du dimanche, comme je l'ai dit déjà à ce micro les autres semaines, ça n'est pas simplement un petit moment de paix, un petit moment de recueillement. Non, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. À l'heure actuelle, on ne va pas à la messe pour faire plaisir à ses voisins. Hein. On y va parce que c'est vraiment un acte extrêmement personnel. Et donc, être privé de ça peut sembler extrêmement injuste à un certain nombre de gens. Et puis, ils ont envie de montrer que, il y a des pratiquants. Ce qui est un peu vite oublié parfois, on a l'impression qu'on ne fait plus partie des choses essentielles, on ne fait plus partie du paysage. On est, on nous compte, on nous dit vous êtes tel pourcentage de la population, donc ça compte moins. Bon. Et donc, je crois que c'est important qu'il y ait eu ces témoignages. C'est plus que c'est pas des manifs, parce qu'on n'a pas hurlé des slogans. Simplement, c'était une présence silencieuse devant les cathédrales pour dire nous soutenons les évêques qui ont fait cette démarche auprès du Conseil d'État. Je crois que ça s'est fait toujours dans le calme. Je crois dans un recueillement. Hein. Et donc, moi je comprends un peu tous ces positionnements de nos fidèles. Je crois que c'est beau aussi de voir que on s'exprime de manière différente les uns des autres. Et ça, c'est ça qui fait l'Église aussi.
Alors, on va jouer franc jeu avec nos auditeurs. Hein. Cet entretien est diffusé mercredi, mais on a enregistré cet entretien mardi. Donc, on est à quelques heures avant des annonces du gouvernement. Donc, au moment où nous enregistrons, nous ne savons pas encore ce que le gouvernement va dire, déconfinement ou pas, réouverture des messes avec assemblée ou pas. Mais est-ce que vous, Mgr Brouvet, au moment où nous enregistrons, aujourd'hui, mardi, est-ce que vous avez des éléments, des perspectives? Comment vous voyez les choses?
Écoutez, moi, je n'ai pas un téléphone direct avec le président, donc je ne peux pas savoir ce qu'il va nous dire ce soir. J'espère bien qu'il va permettre à l'Église de célébrer la messe en public, dans des conditions sanitaires qu'il énoncera. Bon.
Et on est prêt à faire ça.
Enfin, parce que il y a un certain savoir-faire qui s'est développé depuis quelques mois. Donc, moi, je crois que l'important, c'est que il y ait des équipes au moins une personne, voire deux ou trois, qui aident les gens à se mettre dans l'Église et à prendre des bonnes habitudes.
Mmh. Voilà, sortes de référents comme on avait au premier déconfinement, voilà, qui veillent un petit
mais
peu.
Mais alors ouais. Parfois, ils ont un peu disparu au fur et à mesure. Mais au moins, il faut qu'on prenne les bonnes habitudes, surtout si la jauge est plus élargie, si je puis dire, qu'au premier confinement. C'est-à-dire qu'il faut plus de place entre les fidèles. Bon, et là, je crois que chacun est capable de. En plus, je pense que ceux qui viennent à la messe, ce sont les personnes qui sont prêtes à justement faire un effort et à comprendre que. Alors ensuite, est-ce qu'il faudra multiplier des messes, en particulier au moment de Noël? Ça, chaque curé verra comment il fait dans sa paroisse.
Alors notre actualité à nous aussi dans l'Église, eh bien c'est le temps de l'Avent qui va commencer ce dimanche. La couleur liturgique, c'est le violet. C'est une couleur qui nous rappelle que le temps de l'Avent, c'est pas encore la fête. C'est un temps d'attente. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes spirituelles, pastorales, pour qu'on puisse vivre profondément ce temps d'attente et pas céder à cette sorte de frénésie de la fête un peu avant l'heure?
Oui, c'est-à-dire que nous, on a pris l'habitude dans l'Église d'avoir d'abord des temps liturgiques. Ça, c'est beau parce que l'année est marquée par des temps et on ne vit pas toutes les semaines de la même manière et tous les dimanches de la même manière dans l'Église parce que notre temps liturgique est scandé par des fêtes, fêtes du Christ, fêtes de Marie, fêtes des saints, fêtes de l'Esprit-Saint. Et donc, on fête des mystères, les mystères de la foi. Et puis, les deux grandes fêtes que sont Noël et Pâques, puisque notre calendrier liturgique, il est justement basé sur ces deux grandes fêtes, l'incarnation et puis la mort de Jésus et sa résurrection sur la croix, eh bien, nous les préparons. L'Avent, pendant l'Avent pour Noël, puis pendant le Carême pour Pâques, c'est une manière de préparer nos cœurs, c'est-à-dire de sortir justement du train-train quotidien, de la routine, qui peut nous atteindre, tout simplement, parce que voilà, on est pris par l'habitude, et donc c'est de se dire, mais comment je vais me préparer à cette fête? Comment est-ce que, intérieurement, je vais pouvoir célébrer ce mystère? Parfois, on est jeté tout de suite dans le... Vous voyez. Alors, moi, ce que j'aime bien dans le rythme liturgique, c'est que là, vous voyez, on prend 3 semaines, 1 mois, c'est un temps qui est quand même long, on ne se prépare pas à la fête de Noël en 24 heures. Et donc, on entre dans la liturgie au fur et à mesure. Alors, de fait, la couleur liturgique change. Ça nous permet, pendant la messe, de réaliser ce qui est en train de se passer, de nous rappeler, parce que les yeux voient. Et puis, tous les textes liturgiques, surtout... alors, il y a les oraisons de la messe, mais il y a surtout la parole de Dieu qui nous prépare peu à peu à entrer, et du coup la thématique du début de l'Avent, c'est la veille, c'est-à-dire soyez vigilants, un petit peu comme le veilleur dans la nuit, le portier qui attend le retour du maître, et qui est là, et qui est assis, et qui pendant la nuit, donc au moment où il a envie de s'endormir, justement reste éveillé. Alors comment est-ce que nous pouvons ne pas laisser notre foi s'endormir, tomber en sommeil? C'est assez simple de laisser la foi tomber en sommeil parce qu'on est préoccupé par le quotidien, par l'urgent. On se laisse prendre par l'urgent, on se laisse prendre par l'immédiat, et donc on se laisse prendre par, disons, les petites affaires de la vie courante.
Surtout pendant le temps de l'Avent, c'est-à-dire que c'est facile d'être tenté par la logistique des fêtes, par beaucoup de choses matérielles qui sont aussi importantes dans le quotidien, mais qui prennent vite le dessus pendant le temps de l'Avent, précisément.
Voilà. C'est un petit peu comme pour la préparation au mariage. La préparation au mariage, on demande aux gens qui vont se marier de venir au moins 1 an à l'avance, puis de prendre le temps. Oui. Bon. Mais je m'aperçois que bien souvent, c'est les questions, disons, matérielles, oui, qui prennent le pas. Alors à Noël, c'est ça. Ça peut être qui on invite, est-ce qu'on va pouvoir aller retrouver la famille. Bon, évidemment, il y a la question des cadeaux, etc. Bon, des repas. Très vite aussi, l'ambiance autour de nous peut nous illusionner. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'on ne fêtait pas Noël tout de suite. Voilà, il y a une manière d'attendre la fête, de ne pas être dans la fête avant la fête. Et puis, dans l'intériorité, dans la prière, dans, Ça peut être la prière en famille aussi. Alors, il y a des choses qui nous y aident, comme le sapin de Noël, comme la crèche. Tout ce qu'on met là, il faut que ça reprenne du sens. Mmh. Et il faut que ça nous atteigne, vous voyez, dans notre humanité, en nous disant, bon, bah, ce que nous allons fêter là, le fête de Noël, c'est le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint qui se fait chair dans le sein de la Vierge Marie et qui naît homme parmi les hommes au fond d'une crèche à Bethléem dans un temps donné. Et donc ça, c'est la merveille de notre salut et il faut que cet émerveillement, eh bien, il ait lieu aussi dans nos cœurs.
Vous parlez de la crèche, Mgr Brouvet. On peut rappeler aussi que dans tous les villages, il y a des crèches dans les églises. Alors, on ne sait pas encore là, si on sera déconfiné ou encore confiné, mais on peut peut-être dire un mot sur cette importance de faire la crèche et de laisser, comme vous nous y aviez invité au début du confinement, laisser les portes des églises ouvertes pour que les personnes du village puissent venir devant la crèche. Tout le monde, même chrétien ou pas, tout le monde a envie de venir voir une crèche.
Oui, oui, parce que la crèche, par sa simplicité, en fait, elle touche tous les cœurs. Elle touche le cœur des enfants, elle touche, comme vous le dites, le cœur des gens qui sont même loin de la foi chrétienne, parce qu'on voit très bien ce qui est en train de se passer, quoi. Un enfant, ses parents, un âne, un bœuf, et puis les bergers qui sont là, la pauvre grotte. Et ça, c'est, disons, le... ce qui est incroyable dans notre foi chrétienne, c'est que tout prend, voilà, tout commence là, mm-hmm. disons, dans cette pauvreté de la crèche, dans cette humilité de l'enfant, dans cette fragilité de l'enfant. Et donc, de fait, moi, je crois que c'est très important qu'il y ait une crèche qui soit faite dans chaque église, et puis qu'on essaye de laisser l'église ouverte. Parce qu'il y a des églises, d'ailleurs, qui sont illuminées.
Oui.
Et donc, qui invitent à rentrer. Mmh. Je trouve ça, c'est très beau. C'est une manière d'évangéliser, une manière de se rappeler. Et puis, une manière d'aller à l'essentiel.
Il y a quelque chose de missionnaire dans le fait de faire la crèche et de proposer aux gens de la communauté de venir voir la crèche.
Oui, bien sûr. Parce que, justement, ça fait un tel contraste avec ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, une sorte de débauche de moyens, de choses à acheter, de consommation, tout le monde le sait bien. Et là, on est comme sorti de cela mm-hmm. pour...
En fait, on se prosterne devant une réalité simple, pauvre, et ça nous touche.
Oui, ça nous recentre, nous recentre.
Mgr Brouvet, il y avait aussi le rendez-vous des 24 heures pour Dieu. Alors, ce rendez-vous, initialement prévu les 5 et 6 décembre, vous nous avez annoncé la semaine dernière que vous aviez été obligé, évidemment, de le modifier et d'adapter la proposition. Ce qui est bien, c'est que vous ne renoncez pas, ce rendez-vous n'est pas annulé, mais il est modifié. Donc, on peut peut-être en reparler aujourd'hui. C'est un rendez-vous donc, qui va se décliner tout au long de ce temps de l'Avent, justement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous redire comment ça va se passer et qui est invité à participer ?
Oui, alors au lieu de le faire pendant 24 heures, justement, à la Cité Saint-Pierre, comme c'était prévu... les 5 et 6 décembre, ça aura lieu donc tous les samedis de 17h30 à 18h15 environ, donc dans des communautés ou des familles différentes à chaque fois, avec aussi un prédicateur différent. L'idée, c'est de prendre un des textes du lendemain, des textes du dimanche, et puis de le méditer comme on le fait dans la Lectio Divina, c'est-à-dire un accueil... priant, un accueil dans la foi de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on peut la décortiquer de manière très rationnelle. On peut la décortiquer comme, disons, une parole humaine. Mmh. Mais nous, ce que nous voulons, c'est accueillir la parole de Dieu comme une parole qui vient du Seigneur, qui nous est dite pour nous aujourd'hui. Et dans le principe de la Lectio Divina, c'est qu'on lit ce texte, on essaie de comprendre ce qu'il dit effectivement, et puis ensuite, comment il parle aussi dans notre existence et à notre Église aujourd'hui. Et donc, voilà ce que nous proposons, hein, c'est une petite, donc un temps de prière d'abord, un temps de louange, et puis ensuite un certain nombre de points à donner pour la prédication, pour la lecture de la parole, et puis ensuite le chant des vêpres, puisque c'est le samedi soir, les vêpres qui ouvrent la journée du dimanche.
Alors, soyons bien précis, ce ne sont plus 24 heures pour Dieu à la Cité Saint-Pierre, en présentiel, mais ce sont quatre rendez-vous, quatre samedis pour Dieu, quatre rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du diocèse. Voilà. Vous parlez de quatre lieux différents. Il ne s'agit pas d'inviter les gens à s'y rassembler, mais c'est bien, ce sont bien des rendez-vous via les réseaux sociaux. Hein.
Voilà, exactement.
Voilà.
Mais animés, disons, par quatre communautés différentes. Oui. Il y aura deux communautés religieuses. Il y a la colocation des étudiants à la Maison Saint-Paul. Et puis, il y a deux familles qui animeront le quatrième temps de lectio.
Voilà, donc on va parcourir le diocèse tout en restant chez soi, en famille, pour suivre ce temps de rencontre avec le Seigneur. Je précise que tout le monde peut participer, tout le monde, même en famille, hein, bien sûr, c'est ouvert à toute tranche d'âge. Il suffit d'aller sur soit le site du diocèse où il y aura un lien, ou bien sur la page Facebook du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, et puis là, ce sera très simple.
Alors là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que même si on n'est pas sur Facebook, on peut suivre.
Exactement, même les personnes qui ne sont pas...
Alors, expliquez-nous ça.
Alors, il suffira d'aller sur le site du diocèse, catholique65.fr. Et là, au moment, chaque samedi, à l'heure précise,
à 17h30.
À 17h30, même un peu avant, à 17h25, pour être sûr de ne pas louper le coup, eh bien, il y aura un lien... Suivre la lectio, enfin suivre le rendez-vous, on cliquera et on arrivera sur le direct. Voilà. Même les personnes qui ne sont pas abonnées à Facebook et qui ne veulent pas s'y abonner, eh bien, elles pourront suivre ce rendez-vous en direct.
Oui, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook.
Et non, bien sûr, donc il faut permettre ce rendez-vous accessible à tous.
Vous voyez, ce que je trouve beau dans cette lectio divina proposée, hein, c'est que nous préparons à accueillir la fête de Noël. En accueillant la parole dans nos vies. Voilà, ça c'est une vous voyez, prendre le temps pour accueillir la parole de Dieu, samedi après samedi, voilà ce qui peut nous préparer vraiment à fêter Noël, ou la célébration du Verbe de Dieu, du Verbe du Père qui vient dans notre monde. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous méditons la parole de Dieu, hein, cette parole qui vient nous réengendrer, hein, la vie divine. Et donc, voilà, vous voyez, c'est une très belle manière de se préparer à Noël.
Et de se préparer ensemble, ouais. Voilà, en diocèse. Cette rencontre hebdomadaire ici sur Radio Présence, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles du diocèse et puis des prêtres. On a entendu que certains prêtres ont été malades du Covid, ils sont rétablis. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles ?
Oui, écoutez, il y a eu quelques prêtres, quelques diacres, quelques religieuses, quelques-uns de nos collaborateurs... voilà, qui ont été touchés comme tout le monde. Hein. On n'est pas plus protégés parce qu'on est chrétien ou parce qu'on est prêtre. Donc, écoutez, personne, là, dans les collaborateurs proches, n'est à l'hôpital. Donc, on s'en réjouit. Et puis, de fait, il y en a qui l'ont eu, mais qui s'en sont finalement sortis assez vite.
Alors, dans cet entretien, nous voulions aussi aborder aujourd'hui avec vous un sujet qui vous concerne directement, qui vous touche directement, Monseigneur Bouvet, ce sont vos conseils. Un évêque ne travaille pas seul, il a des collaborateurs, des conseillers. Comment ça se passe ici pour vous ? Qui vous entoure ? Qui vous aide au quotidien à travailler ?
Oui, vous avez raison de dire que l'évêque ne travaille pas seul. D'abord, il a un collaborateur, c'est le vicaire général. Hein. Vicaire général, c'est vraiment... vous voyez, le terme de vicaire, c'est celui qui peut prendre la place quand l'évêque n'est pas là, ou qui peut prendre des décisions. Donc, le vicaire général, c'est le premier collaborateur parce qu'il est un peu au courant de tout. Puis, il y a un travail, je ne dis pas chaque jour, mais plusieurs fois par semaine ensemble. Donc, ça, c'est important. Et puis, avec le vicaire général, il y a un conseil épiscopal. Il vient d'être renouvelé en partie là, cette année. Bon, c'est aussi des mandats. On peut faire 6 ans, on peut faire 9 ans, on peut faire 3 ans. Bon,
Alors, il n'y a pas que des prêtres ou des diacres dans vos conseils, précisément même dans ce conseil épiscopal. Il y a tout état de vie, en fait.
Oui, alors, quand je suis arrivé, il n'y avait que des prêtres. Et il m'a semblé important d'inviter un diacre, d'inviter... une religieuse, et puis d'inviter des laïcs, hommes et femmes. Là, en ce moment, il y a 3 personnes laïques, un homme et 2 femmes. Et puis, il y a 2 religieux, Père François Bustillo, qui est conventuel, et puis le Père Joseph Cantounet, qui est prémontré. Il y a le vicaire général, évidemment. Et puis, il y a un diacre, donc Gérard Crozat. Et puis, un prêtre, le père Antoine Mérillon. Alors, en plus du vicaire général, un prêtre diocésain. Voilà. Donc, on a une bonne équipe. Avec un renouvellement, voilà, de temps en temps, vous voyez, un renouvellement qui se fait. Et puis, on se voit, en gros, tous les 15 jours. Bon, ça dépend, parce qu'il y a aussi les moments des vacances scolaires. Mais c'est le premier conseil, si vous voulez, avec lequel l'évêque parle pour se tenir au courant de la vie du diocèse. Et donc, il y a à la fois des questions qu'il y a à traiter ensemble, et puis régulièrement, nous invitons aussi des personnes qui, dans le diocèse, sont responsables d'un service ou responsables d'une activité, mm-hmm. pour faire un peu le point avec elles. Bon, ben voilà, ça peut être la communication, ça peut être la catéchèse, le catéchuménat, ça peut être voilà, un certain nombre de... Ça a été, par exemple, au moment du pèlerinage diocésain, on a vu les responsables du pèlerinage diocésain. Muriel Esparbès, qui est responsable des 24 heures pour Dieu, elle est venue aussi parler. Donc, vous voyez, à la fois, on reçoit, et puis à la fois, on essaie de partager un certain nombre de sujets, soit des problématiques diocésaines, soit des perspectives. Mmh.
Vous avez d'autres conseils ?
Il y a d'autres conseils. Alors, il y a les conseils qui sont demandés par le droit. Hein, donc, conseil presbytéral, un conseil des prêtres, élu par les prêtres. Et puis, il y a un conseil des affaires économiques aussi, conseil diocésain des affaires économiques, donc de personnes qui sont là. Il y a des prêtres et des laïcs, évidemment. Et puis, il y a l'économe diocésain qui vient, mm-hmm. qui est invité à chaque fois aussi. L'économe diocésain ne fait pas partie, par principe, du conseil des affaires économiques, puisqu'il est là pour conseiller l'évêque. Mais il y est invité, et puis c'est lui qui en particulier anime. Il y a un conseil pour la vie religieuse aussi. Voilà, il y a un certain nombre de alors, il y a aussi un conseil des doyens. Hein, depuis qu'on a élu des doyens, il y a 6 doyens. Donc, je les consulte aussi régulièrement parce que les doyens, vous voyez, ils sont chargés. C'est un regroupement, un doyenné, c'est un regroupement de paroisses, mmh. hein, géographiques. Et les doyens sont chargés de prendre des nouvelles, de faire remonter et redescendre l'information.
Donc ça vous permet aussi d'avoir des nouvelles de tout le diocèse.
Des paroisses.
Des paroisses.
Des paroisses. Voilà, et puis ensuite, il y a un moment important aussi pour la vie du diocèse, c'est la rencontre avec les équipes d'animation paroissiale. En général en septembre, parfois il y en a 2 ou parfois 3 aussi. Ouais. Donc là aussi, c'est un moment très important d'écoute, hein, de la réalité du terrain. Et donc tout ça, ça fait... vous voyez, un certain nombre d'équipes qui se réunissent autour de l'évêque.
Et qui continuent à travailler là pendant ce temps de confinement, vous continuez
Ah oui, alors on fait des réunions en visio, hein, exactement. Voilà, comme un peu au rythme qu'on avait. Avec les doyens, c'est un tout petit peu plus fréquent parce qu'évidemment, mm-hmm. c'est les paroisses, hein, les échos des paroisses qui remontent. Et on a un peu besoin de savoir. Voilà, de savoir. Et puis alors, autour de l'évêque, il y a aussi. Les responsables de services, mmh. hein, qui sont là. Donc, ça peut être service de santé, ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure, la catéchèse.
Les jeunes.
L'enseignement catholique. Et donc, le secours catholique aussi. Voilà, des responsables de services que j'essaie de réunir. De réunir, pas forcément ensemble, mais de voir mm-hmm. régulièrement, qu'on puisse faire le point, savoir ce qui se passe, quels sont leurs besoins. Voilà, ça c'est un gros travail de l'évêque, c'est précisément ce travail d'écoute, ce travail de communion, ce travail pour faire le point un peu sur les activités. Il ne suffit pas de donner des lettres de mission, il faut aussi voir les personnes à qui la mission a été donnée pour évaluer leur, mm-hmm. leur mission avec elles.
Merci beaucoup, Monseigneur Brouvet. C'est déjà le terme de cet entretien. Voilà. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel entretien hebdomadaire. Et en attendant, on vous souhaite une belle entrée dans cette année liturgique.
Merci, vous aussi, et à tous les auditeurs. Une très bonne journée. Bon courage pour la poursuite, hein, de ce confinement. On pense à vous, on prie pour vous. Lorsque je célèbre la messe, lorsque les prêtres célèbrent la messe, eh bien, on vous prend dans notre prière, évidemment. Et puis, voilà, on se sent proche. Parfois, on est d'autant plus éloigné physiquement qu'il y a, une communion spirituelle qui se fait. Ça, on la sent, je pense, dans le diocèse, parce qu'on aspire à se voir. Mmh. Et quand on est privé, justement, de cette présence physique, ben, parfois, il y a des liens mystiques, je dirais, d'autant plus forts.
Merci.